In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-Marc Penello, qui est directeur de la relation client chez La Redoute. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Alexis.
Donc on est ravi de t'avoir pour ce podcast. On va parler de relation client et puis d'une société iconique en France, La Redoute évidemment. Tout le monde connaît le catalogue iconique et puis maintenant un passage au numérique. Jean-Marc, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver chez La Redoute ?
Alors, avant d'arriver sur La Redoute, moi, je n'étais pas forcément destiné à arriver en relation client. J'y suis arrivé un peu par hasard. J'ai commencé conseiller en 96, donc ça remonte à quelques années chez Club Internet, déjà aux prémices de l'Internet. J'ai eu la chance d'évoluer chez eux pour finir responsable du service client. Ensuite, je suis passé chez SFR. Comme responsable d'activité, et là aussi avec des belles équipes. Ensuite, j'étais chez Free, là aussi responsable de la relation client Free. J'ai aussi fait la Poste Mobile, création de la Poste Mobile avec les services clients des postiers et des clients Pinot. Et j'ai fini en 2014 chez la Grande Dame pour
la
sa
Redoute.
Renaissance à La Redoute via la reprise de ses dirigeants et de ses collaborateurs.
D'accord. Ah bah donc des belles marques quand même. Free, Xavier Niel, du La Poste Mobile, c'est des
une
marques.
Belle expérience, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver à des moments un peu stratégiques pour les différentes marques, d'avoir justement une expérience un peu significative et un peu exceptionnelle à chaque fois.
Donc La Redoute, c'est un peu une grande dame, 186 ans je crois. C'est une société qui est basée dans le Nord, Roubaix, qui est connue de pas mal de Français. Tu peux nous reparler, je crois que tu connais un peu l'histoire de la marque, et les grandes charnières.
C'est une grande dame effectivement qui fait partie du patrimoine français, née en 1837, à Roubaix, donc Monsieur Pelé.
Pas le footballeur.
C'est Pelé.
C'est un autre.
C'est donc un jeune entrepreneur qui commence, il ouvre une filature de laine. Quelques années après, en 1873, il ouvre sa première usine de textile, toujours à Roubaix, rue de la Redoute.
Pas mal.
Et voilà pourquoi la Redoute s'appelle la Redoute, parce que c'était...
Je pense que tu as à peu près 0,5% des auditeurs qui savent cette information.
Tu vois, comme ça, je ne serais pas venu pour rien. Moi, ils se rappelleront pourquoi La Redoute s'appelle La Redoute.
Rue de La Redoute, ok.
Et puis, 1928, premier catalogue, qui fait 16 pages à l'époque. Donc, vraiment minimaliste, mais en tout cas...
Donc, l'ancêtre.
C'est l'ancêtre. 1950, si on accélère un peu,
c'était déjà de la mode à la base.
C'était effectivement toujours la laine à la base. Et après, en 1950, on rentre effectivement tout ce qui est maison et prêt-à-porter dans le catalogue. 1968,
là, les pelés sont toujours là
je ne saurais pas à quel moment ils sont partis.
Mais c'était un groupe familial à la base.
C'est un groupe familial à la base qui est resté quand même à la tête quelques années. 1968, on invente la carte kangourou, première carte de crédit. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de cette...
Là, je n'étais pas né pour le coup.
C'est pas la même
mais je sais que c'est l'année de 2001, de mes films préférés, 68.
Exactement. 84, le 24 heures chrono. Tu vois, comme quoi aujourd'hui, on n'a rien inventé par rapport à nos nouveaux usages. On a donc une marque qui a déjà quand même été très en innovation.
Qu'est-ce qu'étaient les 24 heures chrono?
Ça veut dire la livraison, en fait. On te livrait en 24 heures chrono.
D'accord. Ah, ça arrivait. On était avant Jeff Bezos, là, 84. C'était quand même 84, carrément 40 ans, quoi. Donc, c'était les débuts de la livraison.
Exactement. Donc, on avait en relais colis où on commençait effectivement, puisqu'en relais colis faisait partie du groupe.
La Poste avait, en tout cas, qui a bossé à La Poste, ils avaient déjà initié les livraisons. Ça avait démarré quand, à peu près?
Les livraisons à domicile, tu veux dire ?
Par exemple, vous
voulez... on a été là-dessus, la vente à distance, on était un peu les premiers finalement, on était les précurseurs.
Non, mais c'est bien de le savoir parce que c'est des choses qu'on a oubliées. On se dit Amazon fait partie de nos vies ou pas que Amazon d'ailleurs, la vente à distance. Mais finalement, ça date d'il y a à peu près une quarantaine d'années.
Et c'est bien la Redoute qui a inventé la vente à distance. Donc il faut s'en rappeler aussi par rapport à ce premier catalogue. Et donc en 1999, on est leader du e-commerce en France. Donc c'est l'âge d'or de la Redoute. Et quand on lance pour revenir sur 1999, le catalogue commence à peser un peu plus lourd puisqu'il fait 1200 pages.
Ah oui, ça c'est costaud ça.
66 000 références. Et donc c'est vraiment l'âge d'or. Et après, on rentre dans la révolution Internet où on a un peu plus de mal quand même à se développer, malgré effectivement le lancement du site mobile en 2010 et la marketplace, puisqu'on lance aussi une marketplace en 2010. D'accord. On était aussi déjà assez précurseurs, parce qu'on est dans les premières marketplaces lancées. Et on a effectivement en 2014, on a repris un nouveau duo, Nathalie Bala et Eric Courtel, qui reprennent la Redoute avec un modèle de FCPR où les collaborateurs sont aussi des actionnaires. Donc c'est un modèle vraiment intéressant.
Collaboratif, quoi.
Puisque là, on embarque effectivement toute l'entreprise en disant on gagne ensemble ou on perd ensemble. Puisque c'était un vrai enjeu, la Redoute perdait 50 millions d'euros par an à l'époque.
Aïe. Pourquoi ? Ça vendait, il n'y avait pas assez...
On avait effectivement pris du retard, une grosse concurrence beaucoup très très digitale, des nouveaux usages, des nouveaux parcours. Et c'est vrai qu'on a eu un peu de difficulté à réinvestir au bon moment pour réalimenter cette révolution.
Donc ton podcast, c'est bien parce qu'il est un peu en miroir de celui de Christophe Famchon qui était à Fnac Darty. C'est vrai qu'il était aussi une grande dame qui a eu besoin à un moment de passer un pli de transfo numérique. Et il disait aussi que les années 2010, c'était quand même le Big Bang de la concurrence, quoi. C'est ça qui s'est passé quand même.
Oui, parce que tu arrivais en fait avec des nouveaux acteurs qui arrivaient balle neuve. C'est-à-dire qu'eux, ils créent leur site, ils créent leur modèle, ils créent l'informatique avec des nouvelles technologies. Nous, il y avait quand même 180 ans d'histoire derrière à faire évoluer, passer du catalogue papier au site internet. Hein. Donc tous les métiers ont changé, les départements ont changé, la logistique a changé, la marketplace a changé. Il a fallu tout changer pour là aussi revenir sur des standards. On parlait de logistique tout à l'heure. On a investi sur un nouvel entrepôt qui nous permet maintenant, il y a quelques années, de se dire entre je clique pour valider ma commande et la sortie de l'entrepôt, c'est 2 heures.
D'accord.
Avant, on avait un collaborateur avec un petit chariot qui passait dans les allées, qui prenait les commandes des clients et qui l'emmenait au bon endroit pour qu'il soit envoyé par camion.
Ça, c'est un sacré challenge quand même par rapport au duo qui est arrivé. C'est vraiment Nathalie Bala et puis son binôme qui ont finalement insufflé cette nouvelle transformation digitale du groupe, c'est ça ?
C'est ça, de toute façon, on n'avait pas le choix. C'était un peu vivre ou mourir quelque part. Hein. Donc, où effectivement, on arrivait à transformer cette grande dame et à la rajeunir pour effectivement, que ce soit en termes de marque, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes d'usage, la remettre au goût du jour avec des grands, comme tu le disais, des concurrents qui sont quand même très très bons hein, sur ces nouveaux secteurs, où effectivement la marque n'aurait pas disparaissait. Donc ce qui aurait été quand même dommage pour une grande dame qui fait partie quand même du patrimoine français que tout le monde connaît.
Mais en tout cas, c'est vraiment un cas d'école, j'ai l'impression, d'une boîte.
Ça devient, parce qu'on en parle même dans les écoles, etc. Ça devient un cas d'usage.
De comment une boîte très historique va prendre le pli de la modernité. Quoi.
Comment tu arrives à transformer une institution qui est là-dessus. Quand même...
Il y a pas mal de métiers que tu dirais qui se sont modernisés ou c'était les deux quoi. Il fallait intégrer
des nouveaux
métiers.
Moi, je suis arrivé en 2014. Par rapport à aujourd'hui, c'est plus du tout la même entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Tous les systèmes informatiques ont changé. Les compétences ont changé. Il a fallu accompagner les collaborateurs sur de nouveaux métiers. Il y a aussi beaucoup des plans sociaux qui ont été difficiles par rapport à cette période-là. Donc une très belle réussite en tout cas et une très forte fierté de toutes les équipes qui ont gagné.
Ça a l'air énorme quand tu le racontes comme ça, on se dit mais de bouger un tel sujet, il faut y aller. C'était combien de collaborateurs d'ailleurs à l'époque au pic de la transfo digitale ?
Je pourrais pas te dire de bêtises, on était à peu près 3000
quand même.
Et là on est 2000 donc on a eu quand même un... D'accord.
Toi t'es arrivé en
2014.
Dans cette zone quoi.
Au
moment de la charnière quoi.
Pour justement remettre le service client... en ligne et en faire un vrai levier de transformation de la Redoute pour que les clients voilà. soit toujours pris en charge dans la meilleure des façons.
Bah alors voilà, justement, on arrive sur ton sujet. Parce que
la... Et juste pour oui, finir là-dessus, un point important, c'est que donc, les Galeries Lafayette rachètent la Redoute pour finir en 2021.
D'accord.
Ce qui est aussi une belle revanche, puisque bah, ça veut dire que la Redoute vaut quelque chose, hein, puisqu'on a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Génial.
Et qu'on se retrouve aussi avec un grand groupe très complémentaire aujourd'hui, puisque les Galeries Lafayette sont très retail, magasin, hein, et nous, on est plus sur le côté web et digital, donc une vraie complémentarité entre ces deux belles marques.
Ce jeu de concentration, pour toi, il est clé en ce moment. Des rapprochements, ça devient très important sur le marché.
On voit bien que tout le monde est en train de trouver, avec la crise économique, il faut trouver suffisamment de puissance, suffisamment d'appui pour pouvoir investir et continuer à aller de l'avant, quoi.
Et là, parce que la concurrence, elle vient de toutes parts. Hein. On ne va pas tous les citer. Ce n'est pas des Vinted, ce n'est pas des vestiaires collectifs. Enfin, il y a vraiment tous les nouveaux acteurs de la mode.
Tu as surtout des changements d'usage, de consommation. Quand tu parles de Vinted, aujourd'hui, moi, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, tu ne m'aurais pas fait acheter un vêtement d'occasion.
Voilà. Les usages ont changé.
Aujourd'hui, moi, le premier, je me dis, au lieu d'acheter quelque chose de neuf, bah, je vais aller regarder sur le bon coin s'il n'y a pas quelque chose à côté qui est en bon état.
Ça, fallait le voir venir aussi. Il fallait avoir de la vista il y a 10 ans de voir venir ça, quoi.
Donc, tu as un vrai changement d'usage des clients qui ne recherchent plus du tout la même chose qu'il y a quelques années. Hein.
En termes de produits, après, on avait basculé en relation client, mais sur les produits, aujourd'hui, c'est très variable en termes de mode, ce qui est acheté, consommé sur la redoute.fr ou ça.
Alors, nous, ce qui est intéressant, ce qui fait aussi la différenciation de la marque, c'est qu'on a aussi nos marques propres, c'est-à-dire qu'on est aussi créateur.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a...
Ce qui est assez original pour des distributeurs online, tu dirais.
Oui, parce que par rapport à d'autres qui ont finalement sont des marketplaces complètes, nous, en fait, on a commencé par nos produits via la Redoute Intérieure et AMPM, qui sont nos marques pour la maison.
Avec des usines, j'imagine aussi les filières de l'époque textile qui ont perduré, quoi.
Exactement. Donc, on a effectivement, après, on est plus parti vers l'Asie par la suite. Hein, mais en tout cas, au départ, on était aussi basé en France. Sur la maison, on est beaucoup aussi sur du canapé fabriqué en France. Donc, on revient aussi de plus en plus proche. On a la Redoute Collection aussi pour tout ce qui est prêt à porter. Donc, on a nos vraies marques. Et on a ajouté une marketplace avec 500 vendeurs qui sont aujourd'hui sélectionnés par la Redoute pour compléter cette gamme et faire en sorte que le client puisse trouver son bonheur en toute confiance, puisque sur tous ces périmètres-là, justement, la relation client, si on fait le lien maintenant, on assure aussi bien la relation client sur les marques propres que la Redoute que sur la marketplace, parce que là aussi, c'est important quand j'achète sur un vendeur, de pouvoir se dire « j'achète quand même à la Redoute et la Redoute est quand même responsable » de ses choix de vendeurs. Donc, on est là aussi en tiers de confiance pour accompagner nos clients en cas de besoin. Et puis aussi, on accélère sur le B2B. La Redoute, c'est aussi du B2B, on ne le sait pas forcément.
Exemple sur le B2B,
bah, écoute, on travaille avec des architectes d'intérieur sont internes. Donc, par exemple, tu veux refaire ton enseigne, ta déco, nous on arrive avec des architectes, on te fait des propositions de meubles Redoute, bien sûr.
D'accord.
Et on vient, on les installe, on les livre et tout est clé en main.
Nouvelle ligne de service. Et sur justement le point de vente, donc, pour arriver à la relation client, donc c'est vraiment, tu as le web qui est devenu très important. Comment tu situes aujourd'hui tous les canaux, les points de vente finalement et de distribution?
Alors les points de vente, il y a aussi bien sûr le web qui est le principal, via le site, l'application. On a aussi des magasins, puisqu'on a rouvert des magasins, une dizaine de magasins.
D'accord.
À MPM.
Ils sont où? Ils sont par exemple.
Alors, t'en as sur Paris, t'en as dans les grandes villes. On va commencer aussi en déployer sur l'international, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais la Redoute est aussi présente en Europe.
Quelle ville en Europe?
Sur 10 pays. En Europe, les magasins, on va juste les ouvrir. Donc, je ne voudrais pas te dire bêtises. On a plutôt fait des pop-up stores pour l'instant que des magasins complètement. Mais en tout cas, on réfléchit à des emplacements un peu stratégiques dans des grandes villes européennes.
C'est bien, ça.
Et on a déjà un chiffre d'affaires, tu vois, de plus de 30% à l'international, ce qu'on ne sait pas forcément de la Redoute aujourd'hui.
Les gens ne le savent pas. On pense que c'est une boîte franco-française,
exactement,
mais pas du tout.
Alors qu'on a une vraie stratégie de déploiement à l'international qui fonctionne plutôt très très bien, puisqu'on bénéficie aussi de cette image de France, de marques françaises qui sont plutôt reconnues sur le côté design et mode.
Ok. Et alors, donc pricing, en termes de relations, on est plutôt accessible, tu dirais, en termes de public visé?
Oui,
ça.
Alors la cible, c'est la famille. Donc, on est plutôt sur des prix avec un bon rapport qualité-prix. Après, on a plusieurs gammes. Tu as MPM sur la maison qui est un peu plus haut de gamme et la Redoute Intérieure qui est plus, effectivement, destinée à la famille.
D'accord. Alors, relation client, bah, qui est vraiment ton domaine. Hein. D'ailleurs, tu pilotes quand même une équipe de pratiquement 50 personnes.
Hein, 50 personnes en interne, plus effectivement nos partenaires, hein, puisqu'on a une relation client qui est externalisée en grande partie.
D'accord. Qui sont des, ah oui, de, qui peuvent être tes customer service ou tes relations clients et tout ça.
Exactement. Donc, on travaille avec effectivement des experts qui prennent nos clients et sur lesquels on pilote, hein, puisque là aussi, c'est nos ambassadeurs et c'est extrêmement important pour nous entre l'image qu'on peut se faire de la Redoute et quand j'arrive et que j'ai un conseiller en ligne, là aussi, c'est extrêmement important de se dire je suis bien à la Redoute avec une approche spécifique et puis une prise en charge spécifique.
Comment tu l'as définie, toi, donc cette relation client que tu travailles au jour le jour, comment, c'est toi, quoi, toi, finalement, qui est important pour toi?
Bah, pour moi, c'est que ça soit simple, accessible, transparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est... ce qui est important pour moi, finalement, c'est le rôle de la relation client, pourquoi on est là. Avant, la relation client, si on refait un peu d'historique, on était plutôt là pour traiter une réclamation.
Oui. C'est encore un peu le cas.
Mais aujourd'hui, la vraie philosophie, et c'est pour ça aussi que je milite, c'est finalement la relation client est plutôt là pour créer de la fidélité. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, répondre à une réclamation, en tout cas pour les grandes marques comme les nôtres, aujourd'hui, fait 186 ans qu'on est là. On n'est pas là pour faire du one shot, donc on est là pour garder nos clients et travailler avec eux de génération en génération. Donc on est vraiment dans cette approche de fidélité. Donc on met tout en œuvre pour que cette contrainte initiale qui est de dire j'ai un problème le transforme en opportunité, parce que finalement quand tout se passe bien, c'est normal.
Oui, on n'appelle pas.
T'appelles pas, t'as ton bon produit au bon moment, t'es content, mais tu crées pas finalement, tu n'arrives pas à évaluer cette implication de la marque par rapport au client.
Je souris parce que j'ai le cas en ce moment, mais je ne veux pas dire quoi, mais il y a un truc qui est tombé en panne. Et c'est vrai que je trouve ce qui est dur, c'est qu'il y a un moment de l'achat où tout se passe bien, il y a plutôt une belle enseigne. La vente est là et patatras, le truc il plante et là on rame, on n'arrive pas à joindre les mails. Oui. Et là on se retourne vers le service initial qui, pour des problèmes de livraison, pour des problèmes divers, vont un peu patiner. Et c'est des moments un peu critiques quand même pour un client.
Mais pour moi, je pense que pour la marque, c'est une vraie opportunité de prouver qu'on est au service du client, qu'on est là pour trouver une solution avec lui et une solution personnalisée. Il y a rien de pire aussi que, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais on dit c'est le process. Je ne peux rien faire, c'est le process. Je pense qu'aujourd'hui, le process, moi, ce n'est pas mon problème. Hein. C'est le vôtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me trouviez une solution. Donc, c'est comment on arrive justement à simplifier cette démarche avec le client, à avoir un conseiller qui est aussi...
Déjà, réussir à parler à la bonne personne.
Oui, bah, c'est ça aussi, d'avoir la bonne personne et surtout d'avoir la même personne qui suit ton dossier. Nous, à la Redoute, on est en train de déployer effectivement ce qu'on appelle, nous, la relation client de bout en bout. C'est-à-dire que c'est le même conseiller qui va suivre ta demande jusqu'à sa résolution. Ce qui évite effectivement d'avoir...
De A à Z, ça veut dire que tu as un nom, tu as une personne.
Exactement.
C'est un peu comme dans le bancaire, quoi, quand on a un bon conseiller. Quoi.
Et c'est lui qui va plutôt te recontacter pour te donner des nouvelles, plutôt que c'est toi qui fais l'effort d'à chaque fois de leur rappeler la Redoute
pour
dire...
C'est moderne. Entre nous, c'est pas pour faire de la pub, mais il n'y a pas beaucoup de marques qui intègrent une personnalisation, c'est ça que j'ai l'air de comprendre, dès le stade amont de l'achat d'un client.
Écoute, ça, pour les grandes marques, ça commence à arriver parce que c'est une vraie différenciation. Et encore une fois, ça démontre l'implication de la marque par rapport au client et son importance. Et aussi, ça nous permet finalement d'impliquer aussi le conseiller. Parce qu'au lieu d'avoir un conseiller qui prend juste une partie du problème et qui s'intéresse un peu, là, c'est son client. Donc forcément, il va aller beaucoup plus loin avec lui. Il va créer du lien. Et il va créer cette fidélité, cette différenciation qui va se dire « Ouais, la prochaine fois, j'ai eu un problème. »
Un peu comme un concierge de l'U. Enfin, tu as déjà le nom, oui, ça peut être Patrick qui... C'est-à-dire que Patrick, il est déjà présent au moment où j'achète ou pas, où il est,
Alors Patrick, non, parce que quand tu achètes tout seul en ligne aujourd'hui, hein, voilà. Quand tout se passe bien. Après, il y a du conseil potentiellement avant-vente, mais là, on est vraiment sur de l'après-vente. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une...
Mais tu as l'indication, il y aura votre conseiller qui sera à votre disposition. Et,
Alors, c'est pas comme ça que ça encore. Se passe, pas encore. C'est-à-dire que quand j'appelle mon service client où je contacte par les médias écrits, et c'est le premier conseiller qui va prendre la demande, qui va suivre ce client jusqu'au bout.
Ah oui, ça c'est vraiment pas mal. Donc ça fait aussi un lien avec tout ce que tu as connu côté opérateur. Ça me fait penser à des problématiques qu'on a tous sur les abonnements, chez les grands opérateurs et tout. Si c'est vraiment d'amener plus de premium un peu dans cette relation.
Oui, c'est effectivement d'attention. Moi, j'appelle ça de l'attention, tu vois. C'est de dire comment On met de l'attention par rapport à un client. Nous, on a aussi des démarches intéressantes, tu vois, d'autres, si on reparle encore de la relation client, sur les grosses commandes. Par exemple, tu viens passer, t'acheter ton canapé à la Redoute, hein, 2000 euros pour certains, donc c'est quand même un achat qui n'est pas neutre. Mmh. Tu l'as fait tout seul en ligne. Mmh. Et nous, on va te rappeler le lendemain pour te remercier déjà d'avoir passé la commande avec la Redoute. Parce que quand même, 2000 euros, ça, c'est pas neutre. Hein.
Quand on est appelé pour être remercié, on n'a pas l'habitude. Ouais,
on
n'a
pas l'habitude. Hein. On va te rappeler effectivement les différentes étapes par rapport à ta livraison pour te rassurer aussi. Parce que quand tu achètes en ligne, tu as toujours ce stress un peu de ce qui va se passer.
Livraison.
La livraison. On va te donner aussi ton conseil dédié qui va te suivre particulièrement. Et on va te recontacter après la livraison pour savoir si tout s'est bien passé.
Livraison. Alors juste un petit... Forcément, je fais des liens avec mon expérience personnelle, comme beaucoup d'auditeurs, ils vont se reconnaître. Livraison, c'est système intégré La Redoute ou c'est partenaire privilégié?
C'est partenaire. Enfin, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires hein, qui sont Relais Colis. Le plus gros est aujourd'hui Relais Colis, mais on en a d'autres. Qui vont effectivement venir chercher les produits dans nos entrepôts et qui vont s'occuper de la livraison. D'accord. Ou à domicile ou en relais.
Mais vous assumez le front quoi qu'il arrive.
Je dis
ça parce que j'ai déjà vécu sans doute toi aussi. Tu vas dans un magasin et tu découvres que c'est quand même un prestataire et il y a un problème qui arrive et parfois ça peut arriver au magasin un peu de se défausser, dire bah moi, c'est plutôt mon service de livraison. On sent que c'est un peu moins huilé à cette étape-là.
Alors, de toute façon, la livraison, c'est toujours un sujet
qui est compliqué.
Parce qu'effectivement, surtout sur le e-commerce, hein, tout passe par la livraison. Donc, nous, on travaille beaucoup avec nos partenaires pour effectivement identifier les points d'irritants, les sécuriser, être proactif aussi. Parce que c'est bien souvent ce qui pose problème dans la livraison, c'est que je ne suis pas informé. C'est-à-dire qu'on te donne une date, finalement, le transporteur, il ne vient pas.
Ça rend malade.
Moi, j'ai posé mon RTT.
Les gens s'organisent, ils ont laissé les enfants et donc, puis bam, en fait c'est dans 48 heures.
Avoir du retard, que ce soit sur la fabrication, puisqu'on a beaucoup de nos canapés, nos meubles qui sont fabriqués sur demande, donc on peut prendre du retard, mais en tout cas la minimum des choses c'est d'informer le client pour qu'il puisse lui aussi s'organiser. Donc on travaille beaucoup aussi sur ce côté mode proactif, plutôt qu'étant réactif où le client nous appelle en disant mais attendez, vous n'êtes pas venu.
Quid de la formation quand même des télécoms, enfin on va dire des, on a cité Patrick ou Magali, on va dire, qui s'occupent des clients. C'est parce que ça, c'est un vrai enjeu de recrutement, parce qu'il y a, on sait, beaucoup de plateaux parfois étrangers ou France d'ailleurs, mais qui peuvent être un peu moins, des gens moins qualifiés. C'est extrêmement dur d'être un bon vendeur et de faire le suivi. Ça, c'est un gros... Tu suis un peu ce levier recrutement sourcing.
Et là-dessus, nous, on est très, très exigeants là-dessus parce qu'encore une fois, c'est l'ambassadeur, le conseiller, c'est l'ambassadeur de la marque.
C'est l'image.
On
n'a
pas beaucoup
de
magasins, nous, donc tout passe par rapport à effectivement ce contact, se passe par la relation client. Donc forcément, nous, si l'image qu'on va se faire ce client, notre client, il va se faire par rapport au conseiller. Est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est sympathique, est-ce qu'il est performant, est-ce qu'il me rassure.
C'est très dur entre nous.
C'est un métier très difficile. C'est un métier très très difficile. Et donc là-dessus, nous on travaille avec nos partenaires et on sélectionne nos conseillers. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de notre cahier des charges. C'est-à-dire que on a des responsables partenaires qui travaillent avec chacun et qui vont valider tous les recrutements avec des tests pour déjà voir si effectivement dans la philosophie, dans la façon de communiquer, dans le côté relation et service, est-ce que c'est quelqu'un qui a les bonnes bases et qu'on va pouvoir sur lesquelles on va pouvoir capitaliser.
Super intéressant ça. Donc ça t'avais un peu benchmarké, les process de recrutement, les personnes,
c'est plutôt, nous là-dessus, on est assez...
T'as une bonne expertise.
On a une bonne expertise et on est assez... on n'est pas beaucoup à faire effectivement cet assessment par rapport à des partenaires externes, puisque finalement c'est un peu on s'insinue un peu dans leur processus. Hein, et là, on se dit, nous, avant de valider quelqu'un chez nous, parce que la formation, nous, c'est quand même un mois pratiquement de formation, donc ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que si on se trompe, ça a un coût aussi pour l'entreprise de se dire si le collaborateur il sort avant la fin de sa formation ou s'il part au bout d'un mois parce qu'il n'est pas au niveau, c'est très compliqué pour nous et le partenaire. Donc, on a trouvé des modèles qui nous permettent vraiment de trouver une efficacité dans le recrutement. Et en plus...
Souvent des partenaires, c'est pas forcément individuel, c'est souvent des structures qui t'intègrent.
Oui, on travaille avec des grosses structures aujourd'hui où on a des plateaux de 150 collaborateurs sur deux ou trois partenaires. Donc c'est des
grosses... demoiselles du téléphone, ça me fait penser à la série Netflix des années 50.
On en a aussi en France. C'est-à-dire là aussi, c'est important parce qu'on a aussi des très bons conseillers.
C'est pas qu'à l'étranger, il y a aussi
en France parce qu'encore une fois, il y a des très bons conseillers à l'étranger, il faut juste les trouver. Il y a des très mauvais conseillers en France aussi.
C'est partout, il y a des bons partout, donc, des mauvais partout.
Nous, on croit beaucoup à l'humain et je pense qu'il y a des compétences. Faut-il justement les trouver?
Bon, bah, je pense que les auditeurs vont prendre une petite masterclass de relations clients là, avec
ouais,
toi.
Bah, j'espère.
En tout cas, moi, j'en prends une. C'est vraiment passionnant. Alors, il y a un sujet qui est intéressant, c'est le Net Promoter Score. Et je sais que toi, on parle beaucoup de la satisfaction client, bah, d'ailleurs, qui est le point qui est souvent mis en avant par Warren Buffett. On avait parlé avec Christophe, qui est un peu le Graal, c'est la satisfaction client et le fait que le client revienne, etc. Mais c'est vrai qu'il y a le Net Promoter Score, un indice qui a un peu été mis comme un étalon, et pour toi, ça ne suffit pas. Tu peux peut-être en parler de...
Oui, parce que moi, je trouve que le Net Promoter Score, donc c'est le taux de recommandation, hein, c'est les questions qu'on pose bien souvent, que vous recevez sur vos adresses mail, de 0 à 10, évaluer la marque. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est un indicateur qui a remis la relation client au centre il y a quelques années et qui a permis justement de faire entrer un indicateur au COMEX, au CODIR, de la relation client, ce qui est quand même pas neutre.
Avec les ventes quand même.
Avec les ventes. Donc,
bon, les ventes, on est plus opaque, c'est plus dur de savoir le business. Mais...
Alors, et ce qui est intéressant, donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, la difficulté de ce type d'indicateur, c'est qu'effectivement, bah, on n'a pas 100% de nos clients qui y répondent. Donc tu as forcément un bon biais par rapport à ça.
Tu dirais quoi en moyenne? C'est du 50, c'est du 50.
Non, c'est du 30-10%.
Ah, très peu répond.
Parce qu'effectivement, les clients sont de plus en plus sollicités. À chaque fois que tu achètes, maintenant, tu as une enquête. Donc au bout d'un moment.
Et puis les mailings et les newsletters, c'est pas
donc,
comme si on.
Si effectivement tu te manifestes, c'est de dire où j'ai besoin de dire quelque chose à la marque et que je m'exprime par rapport à ça en disant je ne suis pas satisfait et je vous dis pourquoi. Où je suis super satisfait, là aussi je vous le dis, mais le ventre mou, on va dire, ou qui correspond à une grande majorité, lui qui ne s'exprime pas, ou il a été insatisfait et il ne reviendra jamais, ou finalement c'est assez basique, mais tu ne sais pas finalement l'identifier. Ce qui est intéressant justement par rapport à ça, ce qu'on est en train de pousser aussi, et moi le premier à la redoute, c'est finalement avoir un indicateur plus complet et finalement qui est la résultante de tout, c'est le taux de réachat. Finalement, plutôt de savoir, d'avoir un indicateur, recommanderiez-vous la marque à un ami? Déjà, recommanderiez-vous tout court à la marque. Oui. C'est déjà le premier.
Parce que vous allez racheter déjà.
Et grâce à la data maintenant, puisqu'on a quand même beaucoup évalué sur les data, on peut effectivement savoir quels sont les clients qui rachètent, ceux qui ne rachètent pas, et pouvoir avoir une analyse pour chaque parcours pour se dire finalement qui génère de la valeur, où on a des parcours où là, on a des clients supplémentaires par rapport à une base, et qu'est-ce qui détruit de la valeur. Pareil par rapport à nos partenaires externes aujourd'hui de la relation client qui sont quand même beaucoup rémunérés encore sur du quanti, c'est-à-dire qu'on va les payer ou à l'acte ou à l'heure, avec du bonus ou du malus sur effectivement cet indicateur de NPS ou de CSAT ou de satisfaction client. Mais là, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est plutôt de se dire ce partenaire, est-ce qu'il te génère de la valeur parce qu'il a justement créé ce lien avec ton client et il augmente ce taux de réachat derrière, ou est-ce qu'il détruit de la valeur parce que le client n'est pas satisfait, il ne revient pas.
C'est assez intéressant parce qu'en t'écoutant, ça paraît un peu évident, mais en vrai, j'ai l'impression que les boîtes ne le mettent pas en place.
Mais non, c'est aujourd'hui, ça, en fait. On regarde vraiment, tu vois, sur...
C'est la conquête et on ne se concentre pas sur les clients qui achètent et qui reconduisent.
Il y a encore effectivement un gros focus sur l'acquisition qui représente 80% des investissements commerciaux. Mais sur la fidélisation, on est encore assez, assez pauvre. Alors qu'il y a effectivement l'acquisition coûte de plus en plus cher avec nos amis des GAFA qui commencent à aussi augmenter leurs tarifs par rapport au référencement.
Au digital marketing.
Exactement, ça commence à coûter très très cher. Or, conserver un client, ça devient de plus en plus intéressant parce que ça coûte moins cher et tu le gardes dans le temps. Hein, l'acquisition, c'est pareil, tu peux très bien avoir une vente et perdre ton client. Donc finalement, ton coût d'acquisition par rapport à sa vente, la rentabilité n'est pas toujours très très.
Et alors, comment
très
on fait ça? Comment on analyse justement les... C'est un gros travail de data, évidemment. Il faut regarder qui sont les clients qui viennent, les traçabilités, les coordonnées.
Et ça, c'était très très difficile avant qu'on ait aussi ce niveau de data. Aujourd'hui, on commence à avoir un bon niveau de data et d'analyse qui nous permettent justement, tu vois, de se dire et de descendre même au conseiller finalement. Ce conseiller-là, quel est son taux de réachat versus un autre.
Ah, c'est pas mal.
Et donc aussi d'avoir, si tu veux, et ça c'est intéressant, c'est aussi de pouvoir valoriser ce métier. Comme tu le disais, c'est un métier très, très, très difficile. Avant, on avait des commerciaux de l'avant-vente qui étaient très bien payés. Pourquoi on n'aurait pas des commerciaux de l'après-vente, finalement,
customer success, comme on dit dans le B2B.
Qui eux aussi génèrent de la valeur et sont aussi payés avec un variable intéressant. Donc, c'est aussi des projets qu'on veut construire avec nos partenaires, tester un peu pour justement, tu vois, finalement, avoir le même objectif et être sur la même ligne, d'être sur cette ligne de création de valeur, de fidélisation et pas d'avoir la marque qui est sur cette feed et le partenaire qui est plutôt, lui, sur du quanti en disant, voilà, moi, je vends des heures et je vends des actes.
Aujourd'hui, entre le physique et le numérique, c'est quoi la répartition, tu dirais, sur des groupes comme La Redoute?
Quand tu dis le physique numérique,
c'est entre la vente en point de vente et la vente via le web.
Nous, on est à 95% sur le web.
Oui, toi, vous êtes très mature en web.
Oui,
c'est ça l'originalité de qui est devenue celle de La Redoute. C'est que ça venait du catalogue au départ, mais c'est vrai que le numérique est devenu clé. Du coup, alors moi, ça faisait penser, c'est toujours la stat que tu as dû avoir, que quand tu rentres dans une boutique, tu as un taux d'achat qui est super important, je crois 30 ou 50%. Et quand tu es sur un site web, c'est genre 3 ou 5%, parce que tu perds vachement les gens. Ça, tu confirmes aussi qu'il y a cette donnée?
Oui, bah bien sûr, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, tu as le magasin, donc tu y vas
pour un but
particulier, ou bien même sur le web, tu y es aussi. Mais tu as tellement de références aussi dans un magasin, tu vas pouvoir regarder, tu vas t'attirer. Il faut qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait aussi la force de La Redoute, c'est son moteur de recherche. Comment tu personnalises aussi par rapport à la navigation du client, te dire, voilà, moi, je te connais, qu'est-ce que tu aimes comme marque, est-ce que tu as des enfants, qu'est-ce que je te pousse, comment je...
Comme ça, tu as déjà un peu des e-conseillers qui font un peu des lives,
alors ça,
des
c'est
webinars.
Plutôt c'est plutôt le système, si tu veux, quand tu vas sur La Redoute, d'accord, qui va te diriger. Quand tu prends ton application Redoute aussi, qu'on a une très belle application que je vous invite à télécharger, hein, qui est vraiment liée à cette personnalisation, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans le mobile, c'est que le mobile aujourd'hui, il fait partie de toi, c'est-à-dire que tu as tout dans ton mobile, donc tu peux le personnaliser au maximum, il est toujours avec toi, et quand tu veux commander, c'est hyper simple finalement.
Aujourd'hui, c'est mobile, et ça commande plus sur le mobile que le web,
On est à peu près à 30% sur le mobile, aujourd'hui, le chiffre d'affaires.
Mais ça monte
très fortement.
Okay.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les clients les plus fidèles sont ceux qui ont téléchargé l'application.
D'accord.
Parce que tu vois, ils ont...
C'est déjà une fidélité, c'est déjà sur leur téléphone.
C'est sur téléphone, mais aujourd'hui, c'est là aussi, pour garder l'application Redoute sur le téléphone des clients, c'est pas simple, parce qu'on est aussi en très forte concurrence. Je télécharge, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Quels avantages je dois avoir pour continuer à avoir cette application sur mon téléphone? Tu vois, c'est tous les usages, tous les services complémentaires qu'il faut qu'on découvre, qu'on innove tous les jours pour pouvoir aller chercher cette fidélité.
Alors, ça fait une bonne transition avec le sujet d'avenir sur l'intelligence artificielle, évidemment, qui aujourd'hui a un peu changé la donne de pas mal de choses et qui, je crois, est au cœur de nouvelles relations clients. Comment tu vois cet aspect? Est-ce que c'est beaucoup du data science, de la personnalisation? Si on se met dans 20 ans, tu dirais, ça va être quoi la nouvelle manière? Bon, c'est difficile de faire la prospective.
C'est hyper difficile.
Mais dans les nouvelles manières de faire cette relation client, qu'est-ce qui va être clé pour toi?
Déjà, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que c'est quand même une vraie révolution. C'est-à-dire qu'on a eu la révolution digitale et internet, enfin mobile et internet il y a quelques années. Là, on a une nouvelle révolution qui est une nouvelle couche qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que là, tout ce qui est IA générative, on n'en parlait pas au mois de janvier.
Oui, c'est très arrivé, effectivement, à l'occasion de...
Et là, aujourd'hui, on a des use cases qui sont assez incroyables. C'est-à-dire qu'on a cette technologie où on peut très bien... Et la différence maintenant par rapport aux anciens bots qu'on pouvait avoir, c'est qu'en fait, c'est conversationnel. C'est-à-dire qu'avant, sur les bots que tu pouvais avoir en ligne, tu posais ta question, tu avais une réponse. Tu en posais une nouvelle question. Pour le bot, c'était une nouvelle question. En fait, tu ne faisais pas le lien avec la première. Là, ce qui est intéressant, c'est que... L'IA.
Tu crois qu'il y a quelqu'un en face.
Il y a vraiment quelqu'un parce qu'il fait le lien entre chaque question. C'est-à-dire que tu vas poser est-ce que vous pouvez me sortir toutes les. Sur le site, vous pouvez me donner tous les modèles de col roulé noir. Ok, il va te les sortir. Et vous pouvez me donner tous ceux qui sont disponibles en taille XL. Tu n'as pas besoin de lui redire, il va comprendre et il va te sortir effectivement. Et pour la relation client, c'est pareil.
C'est beaucoup activé ces bots aujourd'hui, tu dirais, dans le côté conversationnel?
Ça va exploser. Enfin, je pense qu'on est tous, et nous les premiers, l'objectif sur 2024, c'est de déployer cette technologie.
Et parce que là, d'un point de vue évidemment économique, c'est un gain de productivité.
Il y a deux choses. Il y a, comme on le disait aujourd'hui, ce qu'attend le client, c'est deux choses. C'est d'un côté l'efficacité, c'est-à-dire qu'il veut que le service client soit joignable, et il veut une réponse rapide et juste. Et ça, aujourd'hui, sur les data qu'on peut mettre aujourd'hui, c'est assez basique par rapport à ces nouvelles technologies. Tu mets un fichier à plat, tu y donnes, il le mange et te le ressort.
C'est de l'informatif.
Et il est capable justement par rapport à ça à te répondre sur des questions juste par rapport à un cadre bien défini. Donc ça, c'est top. Et ce que veut le client aussi, c'est quand même conserver en cas de besoin ce relationnel, ce côté humanité.
Ça, c'est pas facile.
Donc, le vrai enjeu de demain, c'est comment tu trouves cet équilibre entre d'un côté ce côté digital qui est poussé par les nouvelles générations où ils veulent effectivement tout de suite de l'écrit, de l'interaction rapide, immédiate, mais en conservant quand même, au bout d'un moment, j'ai besoin d'être rassuré par de l'humain et sur des parcours un peu plus compliqués. Comment basculer rapidement sur ce conseiller sans forcément rentrer dans les méandres qu'on a pu avoir sur les premières générations de bots où tu n'arrives pas à en sortir, tu n'arrives pas à avoir quelqu'un, on te repose une question, le numéro de téléphone n'est pas disponible, on n'arrive pas à... Donc
ça veut dire que ton humain, là, si on reprend Patrick de tout à l'heure, il a déjà l'historique des bots, il est en couplé avec le modèle IA.
Et ça qui est intéressant, c'est qu'il va reprendre toute l'historique de la conversation que le client peut avoir avec le bot. Et il va juste apporter cette couche relationnelle et de confiance qui va rassurer le client.
Qui amène le service.
Et qui amène le service derrière.
C'est intéressant. C'est cette hybridité. Moi, je suis assez d'accord avec toi que c'est cette hybridité qui va être clé entre l'humain au bon endroit, finalement, et l'automatisé qui fait gagner du temps.
Exactement.
Un extrême ou l'autre ayant des effets pervers. Je pense notamment dans les aéroports. Je trouve que quand on enlève trop l'humain, à un moment, c'est pas bien parce qu'il n'y a plus le service. Tu vois personne qui à un moment fait un sourire. Je trouve qu'on a parfois, on est allé dans des choix qui vont contre le service. Tu vois ce que je veux dire sur la numérisation.
Après, encore une fois, en tant que client...
Ça dépend
de
ce que tu achètes.
Oui, ça dépend du parcours. Mais en tant que client, si ton parcours digital est hyper bien foutu, qu'il est structuré, qu'il est clair,
c'est autre chose, ça roule.
C'est top. Par contre,
surtout dans la mode, en vrai, quand tu achètes, je sais pas où se situe vraiment la réassurance, mais bon, dans les magasins, en général, les gens sont accessibles. Après, online, c'est peut-être un peu différent. Ça peut être quoi ? Ça peut être sur les modèles, comme tu disais, sur des provenances.
Il y a toutes les plein de questions sur les fiches produits. Par exemple, toi, aujourd'hui, on a des fiches pour chaque produit. Si le bot connaît bien ses fiches produits, bah forcément, il peut aussi conseiller, il peut aussi informer sur toute la panoplie du produit sans forcément avoir un humain. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est d'avoir quand même, vu le nombre de références qui sont sur le site, d'avoir un humain qui connaît toutes ces références, toutes ces spécificités, c'est pas possible.
Et tu peux pas aller... Alors nous, on va basculer sur notre domaine qui est tout ce qui est la vidéo, le brand entertainment, les lives. Est-ce que demain, on va un peu plus figurer des tutos... Enfin, sachez que ça existe dans le monde des lunettes. Il y a eu des trucs avec Ray-Ban et Meta, on en avait parlé avec Pierrick Dutoit. Mais est-ce que tu crois qu'aussi dans la manière de vendre, ça va être un peu plus incarné? On va avoir demain des petites mises en situation ou pas forcément en vrai sur l'achat online?
Alors là-dessus,
sur l'expérience, je pense
qu'il va falloir de toute façon qu'elle soit toujours différenciante, qu'elle soit le plus simple possible et qu'elle donne envie. C'est-à-dire qu'il va falloir donner envie aux clients d'acheter ce produit sur les médias qui seront les siens, parce que ça, c'est ça aussi finalement. Ce client-là, est-ce que maintenant il va aller sur Insta? Est-ce qu'il va plutôt regarder la télé,
YouTube.
Donc c'est
ça, c'est plus du plan média connexe qui redirige sur ton expérience de finalement e-commerce, quoi. C'est
exactement.
Ça. Ok. Ça, alors toi, t'es au transverse de plein de services.
Bah moi, je suis la résultante de tout. C'est-à-dire que c'est moi qui, en fin de parcours, va voir si ça fonctionne ou pas.
D'accord.
Et c'est ça aussi le rôle qui est intéressant de la relation client, c'est que pas qu'un rôle justement de traitement de réclamation ou de fidélisation, mais c'est aussi un rôle de remontée d'informations extrêmement important à toutes les business units pour se dire finalement pourquoi nos clients nous appellent et comment on travaille ensemble pour trouver la source du problème et faire en sorte que on la ferme ensemble pour que le business soit encore meilleur. C'est-à-dire que là aussi, on a des engagements qui sont les mêmes. Mmh. La business unit, elle est là pour vendre, et nous, on est là pour que le client ait le parcours le plus simple et le plus efficient.
D'ailleurs, la relation client dans les boîtes, historiquement, elle dépend de la direction générale. C'est qu'elle est rattachée à quoi, en fait?
Alors, ça dépend. Il y en a qui sont directement au COMEX il y en a d'autres qui sont rattachés au marketing.
D'accord, il y a tout.
Il y en a d'autres qui sont rattachés aussi à la DX. Donc ça dépend.
Toi, vous êtes
nous, on est rattachés à tout ce qui est DX parce qu'on pense qu'effectivement.
DX, tu le définis comment?
C'est tout ce qui est parcours en fait sur le site.
Ah, UX design.
UX design.
Ah, parce qu'en t'écoutant, je pensais vraiment à ça, à tout ce qui est dans la tech, ce qu'on appelle le product owner, qui va remonter toutes les remontées clients et qui va définir son produit en fonction de ce qui peut se passer dans les Airbnb ou des purs web, en fait.
Nous, sur les produits owners, on est là pour les alimenter, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, par rapport à nous, un sujet important, c'est les retours, par exemple. Pourquoi le client fait un retour? Et donc, on peut aujourd'hui croiser les contacts clients, pourquoi ce client nous a appelé sur ce produit, ce qui est un problème particulier, sur les retours, quels sont les motifs de retour. Sur les avis produits, est-ce qu'aujourd'hui les avis sont bons ou pas bons et pourquoi. Donc là, c'est aussi de pouvoir croiser toutes ces données pour pouvoir avoir une volumétrie représentative et de se dire finalement là, comment on est là aussi proactif le plus rapidement possible pour se dire ce produit-là, il y a un sujet, il faut peut-être le retirer de la vente, régler ce problème et le remettre après. Tu vois ce que je veux dire,
c'est
là aussi, c'est toutes ces données maintenant, faire en sorte qu'elles soient disponibles à ceux qui en ont besoin pour là aussi constituer, à améliorer le business et améliorer l'expérience.
C'est riche. Hein. Quand on entend dans tout ça, il y a beaucoup de sujets. Data et CRM, c'est rattaché historiquement à la relation client ou pas? Ou c'est plus...
C'est plutôt marketing. Nous, on a une direction data parce qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment de la stratégie d'avoir une data qui est centralisée où tout le monde peut justement aller chercher cette donnée et croiser. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour nous. C'est-à-dire que nous, à la relation client, on va pouvoir croiser nos data avec les data logistiques, les data marketing, pour voir si là aussi il y a une problématique ou il y a des choses à optimiser. Donc il y a vraiment cette direction data qui est aussi là pour valider finalement un mode de calcul, parce que si chacun calcule dans son coin, on peut aussi avoir des problèmes de logique et de référence. Donc on a cette direction data et puis on a cette direction marketing aussi qui va plutôt aussi piloter le client.
Ok. Alors, deux dernières parties du podcast, Jean-Marc. Merci en tout cas pour tout ce témoignage. Le social selling, je voulais t'en parler parce qu'on parlait du social media qui devient très important. La relation client, tu réfléchis aussi à comment le social permet de développer cette relation client avec tout ce qui est ambassadeurat, influence. Comment tu vois cet aspect?
Alors, nous, c'est deux choses. Pour moi, il y a d'un côté, c'est deux métiers différents. Tu as vraiment l'influenceur qui va effectivement travailler avec la marque, promouvoir. Ouais. Et tu as aussi ce conseiller qui est plus dans l'après-vente, qui va là plutôt accompagner le client vers une solution.
D'accord.
Donc, pour moi, c'est deux métiers différents, mais qui sont complémentaires, hein, parce que là aussi, c'est hyper important aussi de pouvoir interagir avec nos clients sur quand on lance une nouvelle collection, quand un nouveau mob, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, c'est sympa. Ou on travaille beaucoup aussi avec des clients qui nous envoient des photos.
Ah oui.
Qu'on met aussi en ligne pour pouvoir
que d'autres clients,
que de clients puissent se projeter finalement sur ces produits chez des gens, chez des clients classiques. Hein. Mm-hmm. Donc c'est plus facile à se transposer. Donc il y a beaucoup de travail qui sont faits à la Redoute aussi sur ce côté social, média, parce que c'est là aussi que beaucoup sont nos clients maintenant.
Alors oui, avant-dernière question, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités, c'est l'aspect goût. Si tu l'as déjà écouté, tu connais un peu de quoi je vais parler. C'est les goûts en matière de cinéma, série. Alors je sors un peu du cadre business. C'est plus tes goûts en matière de création. Ça peut être un film qui t'a marqué, une série, une bande dessinée, une musique. Voilà, c'est plus côté perso, quoi.
Alors moi, je suis très science-fiction, toi.
Oula.
Donc, j'aime bien toutes les séries un peu science-fiction. Là.
Lesquelles, notamment, ton marché?
Je regarde Witcher, là, en ce moment.
Witcher.
Watcher, ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis très livre aussi. J'aime beaucoup Maxime Chazam.
Ah oui, qui est un thriller, lui.
Oui, qui est thriller, mais aussi science-fiction. Quand tu as toute la série Autre Monde, que j'aime beaucoup, je vous le conseille, c'est en 7 tomes, mais c'est vraiment...
Autre Monde,
On lit ça, tu commences et tu t'arrêtes au 7e tome parce que tu n'as rien vu. Donc, je suis très sur ces sujets-là. Marvel aussi, bon, je suis assez classique.
Ah oui, donc tu es pas mal en prospective. Tu aimes bien quand tu sors dans des univers un peu
science-fiction. Oui, parce que j'aime bien sortir un peu. Quand je vais au cinéma, il faut que je sorte un peu de mon environnement classique.
Une évasion.
Et puis, un peu s'évader sans forcément avoir des drames ou des choses comme ça quand on voit les infos, je pense que c'est suffisamment
anxiogène
déjà et anxiogène. Donc autant se.
Et donc tes musts en ciné-science-fiction, ça serait quoi? Des Inception, des Blade Runner, des 2001, des.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est, j'ai, je suis assez fan de tout ce qui est un peu original, un peu.
OVNI, quoi.
Ouais.
Des films, bah, c'est sûr. Et tu retournes un peu au ciné? Quel usage t'as eu, toi, sur le cinéma?
Bah, par moi, j'y vais assez. J'y vais assez souvent parce que je suis. Enfin, parisien. Je suis parisien et La Redoute est à Roubaix. Donc je suis en télétravail et je suis à peu près 3 jours là-bas et je suis 2 jours sur site. Donc pendant un de ces 2 jours, je me fais souvent un cinéma.
Ah bien.
Et donc j'y vais assez régulièrement un peu sur. Donc je suis assez cinéphile.
Les derniers films qui t'ont marqué, c'était depuis 1 ou 2 ans ou...
Qu'est-ce qui m'a marqué ces 2 dernières années? Marqué, je dirais pas que j'en ai. Je trouve que je suis toujours fan de science-fiction, mais je pense que toi, tout ce qui est Marvel, etc., ça devient un peu.
Oui, il n'y a pas toujours des grands films.
T'y vas parce que ça te change, mais franchement, les derniers, tu sens que les gars, ils vont un peu loin hein, dans le. Il faut les suivre,
ça
quoi.
Ça rame un peu plus, quoi.
Donc, je pense que c'est. Je suis plus sur des nouveautés. Qu'est-ce que j'ai vu qui était vraiment sympa? En plus, j'ai aucune mémoire, moi, de ces.
Moi, je peux dire ce qui m'a marqué. Alors, c'est pas très gay, mais bon, l'anatomie d'une chute, j'ai trouvé ça très fort.
J'ai pas vu celui-là.
Bon, c'est un peu plus drama, hein, mais c'était assez fort sur un couple. Bon, après, il y avait Babylone, j'ai trouvé ça bien mis en scène, mais un peu long entre nous. Alors, j'aime pas quand ça va trop long. Là, Scorsese, j'ai trouvé trop long son film, qui est très bien mis en scène, mais 3h50. Bon, je trouve que dans Gangs of New York, c'était un peu plus ample, mais il y avait un peu plus d'histoire. Alors après, on va dire c'est les séries et tout, mais je trouve quand même que le ciné maintenant il est un peu challengé parce qu'il y a des telles narrations de l'autre côté qu'il faut quand même envoyer. Et puis c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des bons films avant, quoi. Donc il y a,
il y a quand même
des référentiels de films très forts, quoi. Donc c'est.
Mais bon, moi, c'est... un qui m'a vraiment marqué, c'est Forrest Gump. Je trouve que
Oui.
Toi, si tu veux un classique du classique, à chaque coup qui passe, je regarde parce que je trouve que.
Ah bah, c'est un de mes films préférés.
C'est
Robert Zemeckis.
Voilà, c'est.
En 94. Oui, c'était un film intemporel. Il repasse à chaque fois que tu y vois, tu te dis, c'est. Ça a pas vie, enfin c'est universel.
Et puis enfin l'acteur est, enfin Tom Hanks c'est formidable. Oui. T'as plein de
oui, qui est marrant quoi, sur quand il passe tous les univers, toutes les séquences.
Quand il est entre les crevettes, Apple, etc. Enfin t'as vraiment des choses qui sont vraiment originales et qui sont très liées finalement. Qui t'as vraiment une histoire, toi. Bah, t'as pas quelque chose de.
Et puis il y avait un côté très entertainment, mais en même temps sympa. Et donc t'es plus que Philadelphia qui était l'année d'avant. Mais bon, qui était un super film, mais plus drame. Et toute dernière question, c'est plutôt le conseil, plutôt transmission sur une jeune recrue qui voudrait rentrer dans ce monde du. De la relation client qui sort d'études. Toi, de ce que tu as appris de ta vie pro et de ce que tu vois sur la nouvelle génération.
Alors, sur la relation client, ce qui est vraiment bien, c'est encore un des métiers où tu peux avoir un vrai ascenseur social. Tu vois, moi, j'ai commencé conseiller. Je suis aujourd'hui directeur de la relation client.
Fait tout le
j'ai fait
chemin.
Tous les métiers, en fait, de la relation client. Et c'est vrai que c'est encore un métier aujourd'hui. Tu commences conseiller. Si tu es vraiment investi, si c'est quelque chose qui te plaît que tu as un peu de talent, tu peux monter les échelons, les étapes, et ça, c'est génial. Et le conseil que je pourrais donner, c'est de se dire finalement, rien n'est impossible. On l'a vu à La Redoute. Moi, j'ai une citation de Mark Twain qui me suit depuis des années. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible,
alors ils l'ont fait. »
Et je trouve que, tu vois, c'est ça, en fait. C'est, les conseils, c'est bien, mais finalement, il faut se croire en toi.
S'écouter,
faire ton expérience et de se dire non, moi tu m'aurais dit il y a quelques années quand j'étais conseiller tu finiras directeur de la relation client, tu feras des podcasts.
Tu n'aurais pas cru.
J'aurais pas cru une seconde, donc je pense qu'il faut se faire confiance et puis
aller
là aussi où les autres vont pas, parce que tu vois la relation client c'est pas forcément un domaine où on pense aujourd'hui, mais qui a effectivement, c'est un métier où chaque jour est différent, où t'as aucune routine, où tu travailles avec l'étranger, où tu découvres des cultures, où tu travailles avec le marketing, tu travailles avec tous les départements. Tu travailles
ça donne
aussi.
Envie, en tant que je l'écris, là. J'aurais 23, sortirai d'études, là, je regarderai la relation client.
Et puis, encore une fois, tu fais aussi. Nous, on a la chance aujourd'hui de travailler. Moi, je suis aussi président de l'Agora des directeurs de la relation client du Nord.
D'accord.
Tu vois, on se regroupe tous les mois. pour partager entre gens de la relation client. Donc, ça te permet aussi d'avoir un réseau.
Un échange.
Est extrêmement fort. Et en plus, quand tu as un problème avec une marque, on se connaît tous.
Donc vous refilez les bons plans.
Si tu as un petit problème, tu appelles ton collègue qui va se faire un plaisir de résoudre ton problème.
D'accord. Et ben, on finira sur cette petite note d'humour. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab.
Merci de ton invitation et à bientôt.
À bientôt.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.